Vous écoutez France Culture.
6h45, minutes, c'est comme chaque jour l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Voinchet.
Aujourd'hui, Taïwan.
Taïwan, effectivement, à cause de la présidentielle et des législatives d'ailleurs qui ont eu lieu samedi dernier. En ligne de Taipei, Stéphane Corcuff, bonjour. Voilà, et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, en délégation CNRS à Taipei. Alors donc, les élections, on avait dit le résultat s'annonçait serré. En fait, 51,6% pour le président Ma qui se succède à lui-même pour un deuxième ou un second et dernier mandat. Il avait obtenu en 2008 58% et puis une majorité donc au Parlement, 64 sièges remportés par le KMT sur 113 députés. Alors ce qui est tout à fait frappant, je citerai quelques chiffres tout à l'heure, c'est le renforcement considérable des relations économiques entre Taipei et Pékin puisque la Chine est le premier partenaire maintenant commercial de Taïwan. Alors, quelques remarques. D'abord, peut-être, est-ce qu'on a le taux de participation? Est-ce que c'est une bonne participation? Et quels sont les premiers enseignements des résultats? Stéphane Corcuff.
On a un taux de participation de 74-38%, ce qui est tout à fait correct, mais qui est moindre que les années précédentes et moindre que la moyenne des 5 élections qu'on a connues depuis 1996. Donc, c'est un petit peu décevant. Certains analystes y voient d'ailleurs une raison d'un score relativement décevant de la part de l'opposition et de Tsai Ing-wen. Alors beaucoup d'analystes ont pensé qu'effectivement c'était une très nette victoire de Ma Ying-jeou. Vous avez donné le chiffre de 51%. Moi je pense en fait que c'est une victoire incontestable, il y a 800 000 voix d'avance, mais c'est pas vraiment une victoire très nette, au sens où l'électorat à Taïwan est clairement divisé dans un schéma 50-50.
On peut rappeler d'ailleurs que, sauf erreur, il y avait 18 millions d'inscrits pour à peu près 23 millions d'habitants.
C'est ça.
Alors donc, les premiers enseignements de cette victoire?
Eh bien, pardon, je suis un petit peu enroué à Taipei où il fait froid en ce moment. Je pense que le vote est un vote que je qualifierais de conservateur, de docile et de choix par défaut. Il est clair que la problématique des deux rives a joué pas mal dans cette campagne. Ce qui me frappe vraiment, c'est que tout d'abord, la popularité du président Ma jusqu'au début de la campagne, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les chiffres qu'on donnait étaient nettement inférieurs au chiffre de sa victoire. Donc d'une faible popularité à une victoire à 51%, il s'est passé quelque chose en très peu de temps. Et c'est à corréler avec le nombre de ce qu'on appelle ici les électeurs flottants du centre qui sont restés indécis jusqu'à très très peu de temps, quelques jours, voire quelques heures avant le vote. Et en fait, tous les analystes sont d'accord pour dire que c'est un vote de reconduction du président en fonction pour, disons, faire le choix de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Et le Kuomintang a mobilisé énormément ses réseaux. On est dans un régime démocratique, ici c'est clair, mais il est biaisé par bien des dimensions. On pourra en parler dans les enseignements du vote. Et du coup, on peut qualifier ce choix de docile au sens où il est manifeste qu'on a dit aux Taïwanais qu'il fallait faire ceci pour éviter des troubles. Et cela a décidé les électeurs flottants qui ont fait la différence, qui n'est pas énorme, a décidé en fonction de cette angoisse qu'a recyclé le KMT dans sa campagne pour les dissuader de voter pour quelque chose de nouveau qui était présenté comme conduisant indubitablement à des problèmes dans le détroit. Et on verra que c'est peut-être paradoxalement la réélection, la reconduction de Ma Ying-jeou qui va créer quelques soucis dans le politique à Taïwan du fait d'une pression accrue que Pékin va mettre sur lui maintenant, que la population taïwanaise n'est absolument pas, pour le coup, prête à accepter.
Alors, bien sûr, la réélection de du président Ma a été saluée, en tout cas appréciée à Pékin, et elle a été également saluée à Washington. Et Washington, d'ailleurs, célèbre ce rapprochement entre Taipei et Taïwan.
Oui, les Américains ont tenu officiellement, en tout cas, à présenter leur position comme étant très neutre et ne souhaitant pas prendre parti. Cela dit, un certain nombre de choses avaient filtré depuis des mois qui avaient mis l'opposition très en colère à Taïwan sur une approche moins neutre qu'elle n'était présentée. Et notamment le fait que Tsai Ing-wen avait écrit une lettre secrète à Obama, à Tsai Ing-wen, donc le parti d'opposition, pour le rassurer sur un certain nombre de discours qui circulaient quant à sa politique de Pékin. Et l'administration Obama a transféré cette lettre au parti nationaliste au pouvoir à Taïwan, aux grandes dames de l'opposition, qui a vu un acte de non-neutralité évident. On pourrait citer d'autres exemples. Ce qui est sûr, c'est que les Américains, depuis quelques années, sont tendanciellement prêts, non pas à abandonner Taïwan, mais à considérer qu'une relation positive avec Pékin prévaut et que pour peu que les élections soient démocratiques, et elles l'ont été à Taïwan, tout va bien. Le problème, c'est qu'on oublie de distinguer ce qu'est une élection juste et une élection libre. Les élections sont libres à Taïwan, elles ne sont pas justes à bien des égards, parce qu'on a des différences considérables de fonds, d'argent et de réseau entre un Kuomintang qui reste richissime et qui est 40 fois, qui fait des profits annuels 40 fois plus importants que ceux du DPP et qui utilise des réseaux locaux qui ont montré leur efficacité redoutable dans cette élection. Disons que Ma Ying-jeou a quand même perdu 2 millions de voix sur 18 millions entre 2008 et 2012, et qu'il passe très juste, à mon avis, 800 000 voix d'avance sur 18 millions d'électeurs, c'est tout de même pas énorme.
Alors, il s'appuie sur une majorité, ça j'imagine que c'est important, sur une majorité au Parlement. Je ne me souviens plus, est-ce que c'est une chambre unique ou il y a deux chambres ?
Depuis quelques années, c'est devenu monocaméral, une chambre unique. L'Assemblée nationale, qui était la chambre haute, a été abolie.
Bien. Alors, il y a une chose aussi qui est quand même très importante, c'est l'évolution économique de Taïwan, donc en elle-même et surtout dans ses relations avec Pékin. Alors, je cite quelques chiffres, on les retrouvera sur notre site franceculture.fr dans les enjeux internationaux. Pékin accueillerait 42% des exportations taïwanaises, 35% des importations taïwanaises viennent de Chine. À chaque fois, évidemment, on prend en compte la relation avec Hong Kong. Et puis, aucun vol direct Taïwan-continent jusqu'en 2008, et depuis 558 vols hebdomadaires vers une cinquantaine de villes du continent. 11 ports de l'île desserviraient plus de 60 ports continentaux. 25 millions de Chinois seraient employés par des entreprises taïwanaises en Chine. 2 millions de Taïwanais vivraient en Chine. Presque 3 millions de touristes chinois entre juillet 2008 et novembre 2011, etc. On retrouve ces chiffres évidemment franceculture.fr, mais c'est quand même saisissant.
Oui, on a une interaction croissante et qui avance très vite des deux économies, c'est évident. Il y a une accélération très marquée ces dernières années sous la présidence de Ma Ying-jeou, il n'en a pas fait mystère, c'était son programme. Cela dit, on a tendance un petit peu, et notamment c'est la rhétorique du Kuomintang, à dire que rien ne se passait sous les deux présidences précédentes, considérées comme sinon indépendantistes, du moins très anti-Pékin. En fait, c'est un peu un discours de désinformation, parce que les relations économiques n'ont cessé d'augmenter sous les présidences de Li Teng-hui et de Chen Shui-bian depuis, disons, les années 90. Mais c'est vrai qu'on a une accélération considérable aujourd'hui. Prenons l'exemple des vols. Il y a eu, bien avant 2008, il y a eu des vols directs entre les deux rives et de nombreux. Simplement, ils étaient à l'époque, puisque ça débutait, sous un statut de charter.
Et puis pour des, je crois que c'était pour des, voilà, c'était pour des manifestations ou religieuses ou rituelles ou etc.
Ce sont des vols réguliers maintenant, donc qui desservent plusieurs villes à Taïwan. Donc on est dans un changement complet de paradigme, mais qui va effectivement encore plus loin que ça, parce que ça change un petit peu la mentalité à Taïwan. Tous les horizons politiques, y compris les indépendantistes, prennent en compte le fait qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la Chine, et donc même le parti indépendantiste a ajourné vraiment sa position, quoique, comme je viens de le rappeler, elle n'était pas anti-développement économique avec la Chine, c'est clair. Mais disons qu'l'opposition y laisse maintenant une place bien plus considérable. Et il y a un consensus absolument général qui dépasse 88% à Taïwan pour dire qu'il faut préserver le statu quo et que dans ce développement des relations économiques avec la Chine, il est hors de question de, comment dirais-je, d'aller, disons, au-delà de mettre en danger la souveraineté de la République de Chine qui est le nom officiel du régime à Taïwan. Et c'est un petit peu là que l'élection s'est faite. D'ailleurs, le KMT s'est présenté, pas totalement à tort d'ailleurs, mais en partie quand même, comme étant un parti qui protège la souveraineté de la République dans ce processus. Et l'opposition a dénoncé, pas toujours de manière justifiée, mais pas totalement injustifiée non plus, que le Kuomintang ne prend pas assez de précautions. Et finalement, je qualifiais tout à l'heure de choix de Ma Ying-jeou par défaut. Je crois vraiment que c'est une situation très claire. Les gens n'ont pas à voter pour la majorité, pour Ma Ying-jeou, parce qu'ils apprécient sa politique et parce qu'ils l'apprécient lui-même. Les taux de popularité en témoignent. Et ils n'ont pas non plus voté parce qu'ils n'aimaient pas Tsai Ing-wen. Mais ils ont eu un petit peu peur dans ce contexte géopolitique délicat des relations avec la Chine, d'une personne qu'ils considèrent, alors là pour le coup à tort, comme inexpérimentée. Et ils ont fait un choix par défaut en disant bon, on continue. Puis finalement, c'est son deuxième mandat, comme on le sait tous en démocratie. De mandat, c'est un petit peu standard. Et tendanciellement, le Kuomintang voit ses soutiens partout s'effriter. On passe au Parlement un rééquilibrage beaucoup plus marqué. Certes, il garde la majorité absolue, mais la présence des Verts, de l'opposition, est tout à fait démultipliée. Il passe de 27 à 40, comme vous l'avez dit, sur 113 sièges.
Alors, ce qui est intéressant aussi, mais on n'a pas le temps de l'évoquer, c'est que c'est un scrutin présidentiel assez inhabituel à un tour. La question sur le plan économique, on peut se poser, Stéphane Corcuff, et je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon en délégation CNRS à Taipei, c'est au fond dans quelle mesure Taïwan ne sera pas un jour justement dépendante de ses relations économiques avec la Chine, au point de voir sa marge de manœuvre politique réduite à l'égard de Pékin. Et vous l'avez dit, ni unification ni indépendance, mais perpétuation d'un statu quo qui arrange tout le monde. Et en même temps, les relations économiques ont une dimension politique.
Oui, je pense que c'est une très bonne description des choses. Le Kuomintang prend des risques, c'est clair. Il prend des risques avec la Chine, des risques avec la souveraineté du régime dans ses négociations avec la Chine, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour lui, ces risques sont moins embarrassants dans la mesure où finalement, ils sont absolument convaincus que la Chine unique est l'horizon ultime un jour, et puis que la Chine change aujourd'hui. Donc ils font un pari qui est très risqué et qui irrite énormément l'opposition, qui ne partage pas du tout cet objectif.
On aura le temps d'en reparler en tout cas. Merci Stéphane Corcuff. Et donc, je rappelle, merci d'avoir été en direct avec nous. Et puis franceculture.fr où on trouvera un certain nombre d'indications chronologiques sur Taïwan.
Merci, à demain Thierry Garcin.